Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Pour ce troisième épisode de notre série Histoire de profs remarquables, nous échangeons avec Julia, ou plutôt la maîtresse de la forêt. Professeure des écoles dans le premier degré dans les Landes, elle enseigne depuis presque 9 ans. Sa particularité, Julia étant passionnée par son métier, elle est non seulement enseignante, mais également directrice de son établissement, et maintenant en formation pour elle-même devenir formatrice. Et oui, Julia est pleine d'énergie, car comme elle le dit si bien, elle adore créer, imager et réfléchir sur sa classe et sa pratique. Bonjour Julia.
Bonjour.
On est très contente de vous avoir pour un nouvel épisode des Adultes de Demain. Vous êtes connue aussi sous le nom de la maîtresse de la forêt. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce pseudonyme et sur votre parcours d'enseignante?
Oui, bah écoutez, bonjour à vous. Je suis ravie de participer à cette nouvelle série. Alors écoutez, moi je m'appelle Julia, je suis plus connue sur les réseaux sociaux et sur Internet comme la maîtresse de la forêt. Alors en fait, l'histoire est assez simple. Il y a quelques années, je suis arrivée dans une nouvelle école suite à une mutation qui se trouvait dans une forêt, donc dans la forêt landaise, vu que j'enseigne dans l'académie de Bordeaux. Et puis c'était une école un peu particulière parce que j'étais donc la seule enseignante dans cette école qui était entourée par la forêt. Donc ça semble assez bucolique comme ça, mais réellement, le matin, je pouvais voir les lapins et les biches à travers les fenêtres de l'école. Et donc, tout naturellement, quand je partageais mon expérience avec mon entourage, très vite, ils ont surnommé cette école l'école de la forêt. Donc ça ne vient pas de moi, ça vient de mon entourage. Et puis par la suite, j'avais beaucoup à raconter. J'étais seule, j'étais la seule collègue, j'avais quitté suite à une mutation mes amis collègues, et puis c'est vrai que quand on est enseignante, on parle beaucoup de notre métier. Et je me suis dit, au lieu de bassiner mon conjoint et mes proches avec mes histoires d'école, je vais la partager sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Il a fallu trouver un pseudo, et naturellement, du coup, je me suis appelée maîtresse de la forêt. Voilà l'histoire de mon pseudo.
Super. Et depuis combien de temps est-ce que vous enseignez?
Alors, je suis une toute jeune enseignante, ça fait 10 ans. Ça fera 10 ans l'année dernière que je suis enseignante. Et je fais partie de la première génération à avoir passé le concours à Bac plus 5.
D'accord.
Alors moi, je l'ai passé à Bac plus 3. Maintenant, c'est Bac plus 5. Mais j'ai pu finir mon Master MEF. Donc, je suis très fière de dire que je fais partie de la première mouture Master MEF enseignant. Mais ça fait 10 ans.
Super. Et pourquoi est-ce que vous êtes dirigée vers cette voie?
Alors, c'est une vaste question et je pense que quand on est enseignante, on a à peu près tous la même, enfin, c'est une réponse assez récurrente qui revient à cette question. Je crois que c'est une vocation. Voilà. Moi, du plus loin que je m'en souvienne, si vous demandez à mes parents, j'ai toujours voulu être maîtresse. Alors, peut-être, sauf à la période où j'ai voulu être chanteuse, etc. Quand on est enfant, j'ai toujours voulu être maîtresse. Je crois que ça vraiment, c'est une vocation. J'ai eu la chance de trouver mon orientation très rapidement. Et je crois surtout que j'avais cette envie de transmettre. J'ai eu un très bon relationnel avec les enseignants qui m'ont accompagnée tout au long de mon parcours. J'étais une élève très scolaire, j'ai adoré mes années d'école. Et puis voilà, je crois aussi que j'avais besoin d'avoir un métier avec du sens et surtout des responsabilités. Donc bon, j'aurais pu faire autre chose, mais je crois que l'enseignement, ça m'était dédié. Voilà.
Et vous enseignez maintenant donc pour des classes de maternelle?
Non, alors j'ai commencé ma carrière en tant que remplaçante, hein, la plupart du temps, avoir des postes c'est un peu compliqué, mais depuis 4 ans je suis en triple niveau, donc CE2, CM1, CM2, donc plutôt avec des grands.
Super, et donc tous les niveaux sont mélangés?
Oui, alors c'est ça la richesse de mon école, c'est qu'on a des classes multiniveaux. Donc ça c'est très favorable pour les apprentissages et je crois que alors au début ça fait peur quand on nous dit tu vas avoir 3 niveaux. Alors cette année en plus j'en ai 4, mais bon habituellement j'en ai que entre guillemets 3. Ça fait un peu peur, mais au final je crois que pour rien au monde je pourrais revenir à un simple niveau. C'est tellement enrichissant que voilà, si des enseignants hésitent à prendre des classes triple niveau, double déjà, c'est déjà bien, double ou triple, je ne peux que conseiller.
Et j'ai vu sur votre blog que votre carrière a beaucoup évolué et que vous êtes maintenant, donc vous êtes devenue directrice et même formatrice. Pourquoi est-ce que vous avez fait ces choix?
Alors oui, c'est vrai que de ma petite carrière, elle a évolué rapidement. Même si quand on me dit tu es directrice d'école, tu as gravi les échelons, pardon. Alors je leur dis non, c'est pas un échelon, je suis pas la supérieure de mes collègues. Hein. Je fais un peu les tâches que personne veut trop faire dans les écoles. Pour ce qui est des fonctions de directrice, ça m'est un peu tombé dessus. Alors, quand on est enseignante, c'est très compliqué d'avoir son poste définitif. Alors, ça dépend des régions et des secteurs, mais pour ma part, c'était très compliqué. Et alors, au début de ma carrière, donc j'étais remplaçante et je naviguais entre plusieurs écoles. Et je suis notamment tombée sur une école incroyable, avec des collègues incroyables, qui sont d'ailleurs devenus mes amis. Et puis, un jour, elles m'ont dit, écoute, la directrice s'en va, demande le poste, on pourra travailler ensemble. Et j'étais toute jeune et je leur ai dit, mais non, mais moi, j'ai pas les compétences, je me vois pas être directrice. Elle m'a dit, non, mais ne t'inquiète pas, on va t'aider. Et c'est vrai, voilà, j'ai eu une chance incroyable. Donc, j'ai demandé ce poste et je suis devenue directrice. Et depuis, pour me rapprocher de mon domicile, c'est vrai qu'il est plus facile d'avoir des postes de direction. Donc, j'ai toujours par la suite continué à être directrice. Après, je pense honnêtement que au fil du temps, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé, je l'aurais fait, mais j'ai eu la chance de le faire assez rapidement, un peu par hasard pour la direction.
D'accord.
Et formatrice?
Ouais. Alors là, pour le coup, formatrice, pas du tout, parce que ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut être, clair sur ses idées pour enclencher ce chemin vers la formation. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée aussi. Alors, de par le blog, alors même si j'ai bien conscience qu'on est loin de la formation, hein, quand on partage sur un blog, pas du tout, c'est pas de la formation, mais il y a déjà cet échange-là, cette envie de transmettre, d'aider. Et puis, il y a 3 ans, je me suis fait donc inspecter. Et suite à mon inspection, on a un entretien où on peut parler de nos évolutions de carrière. Et je suis tombée sur un inspecteur qui m'a très rapidement dit, mais écoutez, avec tout ce que vous mettez en place et l'entrain que vous avez, vous devriez réfléchir aux fonctions de maître formateur. Alors moi, encore une fois, je suis tombée des nues. Mais attendez, je suis très jeune, je me vois pas animer des formations avec des collègues bien plus âgés. Il me dit non, mais réfléchissez sur ce point-là. Voilà, la certification est très dure à passer. En tout cas, elle est prenante, mais voilà, tant que votre parcours le permet, faites-le. Donc j'ai réfléchi un petit peu. J'ai commencé à être maître d'accueil temporaire. Donc on peut accueillir des stagiaires de master qui se destinent à l'enseignement. Et puis je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire, donc je me suis lancée. Donc je suis pas encore formatrice, je suis dans la certification. Là je vais la terminer normalement cette année. Ça a été un peu décalé avec la situation actuelle, mais je croise tous les doigts en espérant que ça va bien se terminer.
Super. Et quelles sont les différentes étapes pour avoir cette certification ?
Alors, pour être formatrice, on doit passer une certification qui s'appelle donc le CAFIPEMF, qui nous permet après de prendre deux voies distinctes. Soit on peut devenir maître formateur, donc c'est-à-dire accompagner notamment les jeunes professeurs en entrée du métier. Soit aussi on peut devenir conseiller pédagogique. Donc là, on n'est plus en classe, on est dédié à différentes tâches, mais plus dans les bureaux de l'inspection.
D'accord.
On est un peu le bras droit de l'inspecteur. Et pour cette certification, donc, elle se déroule en 2 ans. Il y a une première étape où c'est l'admissibilité. Donc, on a un entretien, voilà, pour voir si on est fait pour ça ou en tout cas si on correspond bien aux attentes, aux attentes du métier. Et la deuxième année, donc l'année dans laquelle je suis, on doit écrire un mémoire sur une problématique de formation. Et ensuite, on doit la soutenir. On doit soutenir le mémoire et on a aussi une épreuve pratique où on se rend dans des classes de stagiaires pour les regarder enseigner et ensuite faire un entretien pour leur donner des pistes d'amélioration.
Oui, donc c'est très prenant, ouais.
Oui, parce qu'on n'a pas de temps dédié, on fait tout ça un peu sur notre temps personnel, hein, en plus de gérer et la direction et la classe, donc c'était une année assez rock'n'roll.
Et vous avez choisi conseillère pédagogique ?
Non, alors pas du tout. Alors oui. Déjà, moi, je vais essayer de finir cette certification. Et si j'ai la chance, j'aimerais plutôt, pour les premières années, devenir maître formatrice. Donc, c'est-à-dire, on reste quand même, on a un pied dans la classe, hein, parce que moi, c'est ce qui m'anime quand même en premier. Et après, moi, je souhaite vraiment aider les jeunes en entrée du métier. Donc, je me prédestine plus, effectivement, aux fonctions de maître formateur plutôt que conseiller pédagogique.
Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de changer ? Dans la formation des enseignants.
Oh bah écoutez, là, c'est un vaste chantier que vous me posez comme ça. Alors, même si j'aurais tendance à dire quand même que... alors, c'est peut-être mon futur côté formateur qui va parler. Ça a quand même évolué hein, depuis quelques années. Je crois que mine de rien, pour être formé au-delà des cours qu'on peut avoir à l'INSPE, donc anciennement, nouvellement l'UFM, on doit quand même avoir une part... de terrain, de contact avec les élèves. Alors c'est compliqué parce que ce sont des élèves, hein, ce sont pas des dossiers, donc on peut pas trop se tromper. Ce que j'améliorerai, je crois, c'est vraiment, enfin, pour discuter avec des enseignants qui débutent, hein, avec mon blog, j'ai beaucoup de jeunes enseignantes qui m'écrivent. Je crois que c'est compliqué d'allier à la fois le master et à la fois les premiers pas en tant qu'enseignant. Donc si vraiment on devait revoir ça, revoir la copie, je pense qu'on pourrait travailler sur ce point-là. Parce que niveau administratif et niveau cours, on leur demande quand même énormément. Ils doivent faire un mémoire, ils doivent gérer leur classe en binôme. C'est difficile aussi hein, de travailler en binôme en début de carrière. Donc, je crois qu'il y a plein de points à revoir, mais vraiment, ça serait plutôt de les mettre encore plus sur le terrain et de les accompagner sur des points très pratiques.
Et pour en revenir à votre rôle de directrice, qu'est-ce qui vous plaît avec ce nouveau rôle ?
Alors, qu'est-ce qui me plaît ? Je crois que les directeurs qui vont m'écouter vont me prendre pour une folle. Mais je crois que j'aime bien ce côté organisation et avoir le sens des responsabilités. Alors, bon, j'ai complètement conscience que... Et parfois, je suis débordée par mes missions de directrice et notamment par l'administratif. Il y a beaucoup d'administratifs, de papiers à remplir, de procédures à respecter. Mais j'aime bien ça. Alors je le dis en connaissance de cause parce que je n'ai que 2 classes à gérer et c'est une toute petite école. Peut-être que mon discours changerait si j'avais 10 classes à gérer. Mais j'aime bien ça, avoir le sens des responsabilités. J'aime bien ça.
Et on aime bien poser cette question, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que votre métier est particulièrement passionnant ?
Pourquoi le métier est passionnant ? Écoutez, je crois que même si d'extérieur, alors quand on n'est pas dans le métier, on a l'impression que c'est facile, on a l'impression que on n'est que devant les élèves. Mais moi, ce qui me passionne le plus, c'est surtout tout le travail fait en amont. C'est la préparation de la classe, c'est essayer de trouver des nouvelles idées pour amener des notions, parce que de nos jours, on n'enseigne plus comme avant. Essayer d'allier le concret, la vie de l'élève avec les notions à aborder. Moi, c'est cette préparation-là qui fait que c'est passionnant. Alors, quelquefois, c'est difficile parce que c'est compliqué de couper à la maison. Hein. On a toujours la tête à l'école. Voilà, on fait une recette. Ah tiens, ça pourrait être intéressant pour travailler les fractions ou la proportionnalité, des choses comme ça. Mais c'est ce côté-là très passionnant de se dire qu'on prévoit quelque chose, que mine de rien, ça va pas forcément prendre le chemin qu'on a décidé ou qu'on a inventé. C'est un métier où on se recrée un peu tous les jours. Donc ça, c'est vraiment très passionnant.
Et vous insistez notamment sur votre blog sur l'importance de l'autonomie, notamment parce que vous avez une classe à triple niveau. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont vous arrivez à mettre les enfants en autonomie ?
Oui, alors pour moi, c'est un des piliers fondamentaux de ma pratique, l'autonomie. Alors je crois vraiment, d'autant plus depuis que je suis en triple niveau, enfin multiniveau, quelque part ça se fait un peu naturellement, pas pour tous, hein, pas pour tous les élèves, mais c'est vrai que moi dans ma classe mes élèves sont assez autonomes et je le mets en valeur, j'essaie d'inculquer ça notamment par des petits projets. Alors on a dans ma classe des systèmes, on a les métiers de la classe où chaque enfant a une responsabilité. J'essaie vraiment de responsabiliser au maximum les élèves, que ce soit dans leur évaluation, que ce soit dans la vie de la classe. Donc moi, j'ai des conseils de classe où chaque semaine, on se réunit, on discute, alors de thèmes et d'autres. Et c'est des moments très forts en échange. Et on se rend compte parfois que les élèves sont bien plus sages que les adultes dans leurs décisions de classe. J'insiste beaucoup sur ça, voilà, d'essayer d'allier autonomie et bien-être et faire comprendre que, ben voilà, on est, moi, la première phrase que je dis le jour de la rentrée à mes élèves, c'est « on est une équipe ». Donc on perd ensemble, on gagne ensemble, donc chacun doit trouver sa place. Et moi, je suis certes l'enseignante, mais parfois je suis au même niveau que vous et voilà, je respecte les mêmes règles que vous, j'ai les mêmes droits, les mêmes devoirs, et voilà, on est tous dans le même bateau. Et ce qui fait que voilà, c'est un système que j'essaie de mettre en place dans ma classe qui favorise l'autonomie et donc qui influence vraiment le bien-être de mes élèves.
Et donc si on rentrait dans la classe de la maîtresse de la forêt, en dehors de l'autonomie, quelles sont les particularités de cette classe ?
Alors ma classe, je crois que vraiment quand on rentre, moi j'essaie de faire ressentir la bonne humeur dans ma classe. Moi je trouve ça très important. Alors c'est ce que je disais aux jeunes enseignantes qui me posent la question de comment, ne serait-ce que dans l'aménagement, j'y accorde, pour moi c'est un point essentiel parce qu'on passe énormément de temps dans notre classe et parfois on a même ce petit lapsus de dire je suis dans ma chambre, non, je suis dans ma classe. Donc c'est très important pour moi, c'est fondamental que les élèves puissent se repérer facilement, ne serait-ce que par les affichages, s'y sentent bien. Et donc tout ça, moi je le construis avec mes élèves. Voilà, donc ça prend du temps. Donc si vous arrivez en début d'année dans ma classe, ça va vous paraître bien tristounette, mais en fin d'année, elle est pleine de vie. Et puis on est loin du schéma qu'on peut trouver actuellement, malheureusement, avec la situation du Covid où les élèves sont tout seuls à leur table. Moi, on travaille ensemble, on manipule ensemble, les élèves sont par îlot, les élèves se déplacent. Il y a plusieurs coins dans ma classe, des jeux aussi, beaucoup de jeux, beaucoup, beaucoup de jeux. On joue beaucoup dans ma classe.
Et vous parlez aussi de rituels. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Oui. Alors oui, effectivement, sur mon blog, je donne des exemples de rituels que je mets en place dans ma classe depuis quelques années. Parce que en étant en multiniveau, alors quelque part, on doit apprendre aux élèves à être autonomes. Donc moi, je peux pas être avec tous les élèves en même temps. C'est une force aussi, hein. Mais j'aime bien aussi mettre en place des rituels en entrée de journée. Parce que c'est difficile le matin, quand on arrive, on n'est pas bien réveillé. Donc on a toujours une petite activité pour de mise en route. Et ces activités-là, donc qui sont plus dédiées soit à l'étude de la langue, aux mathématiques, au langage oral avec les débats, etc. À mon sens, ça favorise les apprentissages, parce que ça permet à l'élève de ritualiser, donc de faire toujours la même chose. Les élèves connaissent les consignes et imprègnent beaucoup plus rapidement des notions et des compétences. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, les rituels. Et ça fonctionne très bien.
Et j'ai vu aussi sur votre blog que vous avez testé la classe flexible et les évaluations autogérées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Alors, la classe flexible, c'est une nouvelle, j'allais dire même pédagogie, je pense qu'on peut appeler pédagogie, qui permet à l'élève de se sentir bien dans l'espace et dans son corps pour apprendre. Donc, l'élève ne reste pas assis toute la journée à sa table comme on peut... comme on a pu nous le vivre en tant qu'élève ou que certains font. Alors moi, j'ai commencé il y a quelques années, j'ai été influencée, entre guillemets, par des enseignantes, pareil, qui partageaient leur expérience. J'ai trouvé ça très bien, mais je n'ai pas continué parce que, de un, je ne me suis pas assez renseignée. Voilà, j'ai vu ça, ça a marché chez les autres, je me suis dit, waouh, ça va marcher. Et ça n'a pas forcément marché, alors pas à cause des élèves, mais je crois à cause de moi, parce que je ne me suis pas assez renseignée, donc j'ai vite abandonné ce côté-là, mais c'est vrai que sur Internet et à travers les réseaux sociaux et la communauté de professeurs qui partagent leur quotidien, on retrouve beaucoup ça en ce moment et ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Après, au niveau des évaluations, donc ça vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est notamment le sujet de mon mémoire de formatrice. Moi, il y a quelques années, j'ai eu une élève, une très bonne élève, qui a été très stressée par des évaluations. Par une évaluation, elle se sentait pas du tout capable, alors qu'elle l'était. Clairement, elle l'était. Et ça m'a fait un électrochoc. Et en fait, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. On nous demande d'évaluer à un instant T, alors qu'on sait très bien qu'il y a des élèves qui ne sont pas encore capables, qui le seront peut-être plus tard, dans un jour, deux jours, une semaine. Et donc, à partir de cette anecdote-là, j'ai remis en cause tout mon système d'évaluation, ma façon de voir, en fait. Donc, ça m'a forgée en tant qu'enseignante. Et donc, depuis ce temps-là, je ne fais plus d'évaluation sur table, enfin, comme on peut l'appeler, je vais pas utiliser les termes techniques, mais voilà. Je permets à l'élève de choisir le moment où il se sent prêt pour être évalué. Donc ça, il faut l'expliquer aux parents, parce que les parents ont du mal à comprendre et pensent que les élèves vont gruger en se disant mais s'il faut choisir, ils vont jamais choisir. Eh bien non, les élèves choisissent, ils sont ravis d'être impliqués dans ce schéma-là et ils se sentent prêts. Donc la plupart du temps, s'ils se sentent prêts, la compétence qu'on évalue est acquise. Donc ça, c'est un système peut-être difficile à mettre en place dans les premières années d'enseignement, mais moi j'en suis encore une fois ravie et je ne pourrai plus revenir en arrière sur ce thème-là de l'évaluation.
C'est génial ça, mais pratiquement comment vous faites ? C'est eux qui décident quand ils sont prêts ou c'est vous ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même des programmes scolaires. Moi j'ai des programmations à respecter, voilà. Donc ce que je fais, c'est que en amont l'été, j'ai fait un grand travail de préparation où j'ai préparé une petite évaluation sur chaque compétence du programme, parce que j'estime, par exemple, si je prends la compétence savoir poser une soustraction, on n'a pas besoin d'en faire poser 10 000 à l'élève. Si on en pose deux ou trois, c'est que c'est acquis. Donc, je prépare ces évaluations-là. En début de semaine, ou sur 15 jours, moi, je le faisais sur 15 jours, on fait la liste avec les élèves des compétences qu'on va travailler. Enfin, je leur dis les compétences que nous allons travailler ou qu'on a déjà vues. On les écrit sur une petite affiche. Donc, ça permet à l'élève aussi de savoir pourquoi on apprend et à quoi ça va nous servir. Donc, ça les met aussi en position d'acteur. Et je mets à disposition ces petites évaluations. Ils ont chacun leur pochette. Il y a un tableau avec une croix à cocher et sur des moments dédiés dans mon emploi du temps, ils vont chercher leur petite pochette, ils se mettent en condition, ils font leur petite évaluation et ensuite moi je la corrige.
Super. Ouais. C'est super.
Donc ça demande un grand travail effectivement d'organisation parce que tous les élèves ne sont pas évalués au même moment sur toutes les compétences. Après moi je régule, voilà, si j'ai des petits filous qui, je vois, qui attendent un petit peu alors que je sais qu'ils sont prêts. Je les incite, j'essaie de les inciter à passer l'évaluation. Et au contraire, sur les élèves, pour les élèves en difficulté, je leur dis c'est pas grave, on verra plus tard. Et puis j'allie ce système à des observations. Donc c'était la grande inquiétude des parents de savoir mon enfant va pas être évalué surtout comme tout le monde. Je fais non, mais vous inquiétez pas. Moi, en tant qu'enseignante, on travaille sur le cahier, on fait des exercices d'application. Et moi, j'ai l'œil. Donc, en fait, je sais aussi où l'élève se situe rien qu'en observant son travail.
Non, mais c'est super parce que c'est vrai que si c'est l'enfant qui choisit le moment où il passe son évaluation, il doit avoir beaucoup moins de stress que quand c'est imposé à un instant
exactement.
T, en fait.
Oui,
c'est super.
Ça a vraiment enlevé une chape de stress. Mmh. Et puis, ça implique les élèves. Ça leur donne, encore une fois, une responsabilité. Ça les fait gagner en autonomie. Mmh. Et ils sont fiers. C'est plus l'évaluation sanction. On est presque dans de l'évaluation positive, au final.
Mmh. Et puis, vous les préparez mieux à la vie. Parce que quand on est adulte, c'est soi-même qui décidons quand on est prêt à changer,
exactement.
À évoluer, etc.
Exactement. C'est exactement
ouais, c'est
ça. Et moi, je tends vers ça, je tends vers un enseignement explicite où j'explique toujours aux élèves pourquoi on apprend les fractions, pourquoi on apprend, comment ça va nous servir dans notre vie d'adulte. Et ça les aide à comprendre et ça favorise aussi du coup les apprentissages.
Et quelles ont été les réactions des parents ?
Sur ce système d'évaluation ?
Oui.
Moi, j'essaie d'être très claire et je communique beaucoup avec les parents. Je trouve que c'est la clé aussi. Parce que je suis pas encore maman, mais je me dis que, ils nous confient leur enfant, hein, sur une journée. Donc, on les voit presque plus que sur une journée. Donc, ça me tient à cœur de leur expliquer exactement ce qui se passe dans la classe. Et puis, les parents sont en demande au final de savoir ce qui se passe réellement. Parce que les enfants sont, dans les petites classes, n'ont pas tendance à expliquer trop comment ça se passe. Donc moi, en réunion de classe, je prends un temps pour leur expliquer ce système d'évaluation. Je leur montre avec des cahiers, je les mets en situation. J'explicite vraiment très bien cette procédure-là. Alors, je rassure notamment les parents de CM2 parce que j'ai tout le temps la question « oui, mais au collège ?» Donc, je leur explique que je fais un mixte pour les CM2. Je fais aussi des évaluations plus traditionnelles pour les préparer. Mais les parents sont ravis, en fait. Les parents, quand je mets en avant les points positifs de ce système-là, ils sont ravis. Et une fois qu'ils ont bien compris le système, j'ai l'impression qu'ils me font confiance.
Super. Et comment est-ce que vous gérez les enfants qui vont potentiellement pas respecter les règles de cette auto-évaluation ? Parce que je sais notamment que vous n'êtes pas trop pour les punitions, ce qui nous plaît beaucoup. Donc,
oui.
J'aimerais bien connaître votre approche là-dessus.
Oui, alors, moi, je ne suis pas pour les punitions. Voilà, c'est encore une fois la petite anecdote. Quand j'arrive, là, je suis arrivée dans ma nouvelle école, la première question de mes élèves, mais maîtresse, tu donnes des punitions ? Et quand je leur dis, non, il n'y a pas besoin, normalement. Il n'y a pas besoin. Si tu fais une bêtise, alors on en discute. Après, moi, c'est vrai que j'ai un petit effectif, donc je discute aussi énormément avec mes élèves. On explique pourquoi. On a le conseil de classe aussi pour les gros problèmes. Ça m'est rarement arrivé de discuter sur un problème de classe. Mais en tout cas, je leur explique que non. Moi, en tant qu'adulte, ça peut arriver de faire des erreurs. Les enfants font des erreurs. On apprend en faisant des erreurs. Si on ne respecte pas de règles, on en discute. Et là, on prend des... Par contre, on ne ment pas et on est responsable de ses actes. Donc, il faudra assumer. Et c'est ce que je leur dis. Donc, pas de punition. Et je ne fais pas la séquence de... Généralement, ce qu'on voit dans les classes en début d'année, c'est les règles de vie de la classe.
Ah oui.
Donc, moi, je leur dis, on ne fait pas de règles de vie. Enfin, je ne vais pas vous dire, je n'ai pas le droit de taper mon copain. Je n'ai pas le droit de parler sans lever la main. Je leur dis non, normalement, ça, vous devez le savoir. C'est des choses, c'est être bon citoyen et avoir de bonnes manières. Donc, on ne fait pas de règles de vie, surtout avec « je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas », non. La seule règle, je leur dis, c'est de ne pas se mettre en danger et de ne pas mettre en danger les autres, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Voilà la seule règle de ma classe.
Super.
C'est bien.
Et est-ce que vous auriez, moi j'aime bien poser cette question parce qu'on aime bien avoir les histoires un peu comme si nous étions dans vos classes. Est-ce que vous auriez une histoire particulièrement forte que vous avez vécue avec un enfant, avec un parent, avec un professeur à nous partager ?
Oui. Alors, il y a plein d'anecdotes. Hein. Je sais que la vie d'enseignante est très riche. Une anecdote, vraiment, quand j'y repense, ça m'émeut beaucoup. Quand j'ai commencé ma première année d'enseignement, j'étais remplaçante et j'ai été nommée sur une classe difficile, dans une école difficile. C'était un CM1, CM2 où il avait des élèves très très difficiles. Et quand les parents ont su que j'étais stagiaire, c'était ma première année, il y a des parents qui ont voulu déscolariser leur enfant.
Oula.
Et alors la grande chance que j'ai eue, c'est que... Ouais. Là, alors sans me connaître, hein, c'est juste l'étiquette, je pense, stagiaire qui fait peur. Et la grande chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, j'étais dans une équipe de collègues formidable avec une directrice formidable qui ne me l'a pas dit, qui m'a laissé prendre mes marques, qui je pense, a rassuré les parents. Et à la fin de l'année, il y a une maman qui m'a fait une lettre incroyable, qui m'a remerciée comme jamais. Alors, non pas qu'on fait ça pour la gloire, hein, bien pas, mais ça fait toujours plaisir. Et elle m'a dit, écoutez, je regrette énormément ce que j'ai pensé en début d'année. Voilà, mon fils, je me souviens encore de cet élève, pourtant ça fait presque 10 ans. mon fils a évolué d'une manière incroyable. C'est grâce à vous. Et merci. Enfin, elle m'a remercié. Voilà, elle était très émue avec les larmes et on s'est mises les deux à pleurer. Et voilà, c'était un moment fort. Je me suis dit, waouh, c'est un métier utile quand même qu'on fait. Ça m'a confortée dans l'idée de ce que je voulais faire.
Bien sûr.
Superbe.
Et je me demandais, avec votre triple casquette enseignante, directrice, formatrice, comment est-ce que vous allez réussir à jongler avec tout ça ?
Ah ben c'est compliqué. C'est très compliqué. Je crois que c'est le gros problème de l'enseignement. Un des gros problèmes, c'est que c'est très compliqué à trouver un équilibre, ne serait-ce qu'entre la vie professionnelle et la vie familiale. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui me soutient et qui accepte que mon métier soit une passion et qui accepte de garder les bouchons, voilà, tout ce qui traîne à la maison pour la classe. Non, après, sérieusement, pour les trois casquettes-là, alors en tant que... si j'ai la chance de devenir formatrice dans les années à venir, on a ce qui s'appelle du temps de décharge. Donc, ça veut dire concrètement que je ne serai pas à 100% avec mes élèves, que je partagerai ma classe avec une autre collègue et ça me permettrait d'avoir du temps dédié pour la formation et du temps aussi dédié de direction. Donc, là, actuellement, j'ai déjà ce temps de décharge en tant que directrice qui est minime, qui est clairement pas assez, c'est sûr, mais bon, je prends déjà ça. Après, voilà, c'est il faut jongler et je pense qu'il faut être très, très bien organisé. Oui. Ça, c'est important. Très bien organisé.
Et alors, comment est-ce que vous pensez que votre carrière va pouvoir évoluer, sachant que tout ça s'est quand même passé très vite ?
Oui, bah écoutez, moi, j'espère pouvoir devenir formatrice. Hein, voilà. Après, je vais me calmer un petit peu, je vais profiter de ces moments-là, je vais apprendre surtout à devenir formatrice. Là, moi, l'année dernière, j'ai réussi à être proche de mon domicile. À enfin me poser parce que les années précédentes, je faisais quasiment 220 km par jour pour aller dans ma petite école de la forêt. Ouais. Donc là, en fait, déjà là, je me suis presque posée depuis cette année. Donc, je n'aspire qu'à prendre mes marques dans ma nouvelle école, commencer mes fonctions de formatrice, si on me le permet. Et puis voilà, et voir continuer à suivre mes élèves dans ma nouvelle école. Ça sera déjà bien.
Et j'aime bien poser cette question. Est-ce que si vous aviez une baguette magique, est-ce que vous changeriez dans le système éducatif actuel, sachant que vous, en plus, vous avez une vision assez large de ce système-là ?
Oui. Je crois que vraiment, et c'est vraiment dans la tendance du moment, je crois que j'essaierais de faire changer le regard que peuvent avoir les gens sur notre profession. Et le manque de reconnaissance. Mmh. Je crois que c'est... Alors, au-delà... Alors, il y aurait plusieurs choses, en fait, maintenant qu'on pose la question. C'est vraiment le manque de reconnaissance. Et après, il y a aussi le côté administratif qui pèse énormément. Voilà, on est enseignant, on est là pour enseigner, mais il y a une large part qui est dédiée à l'administratif, à rendre des comptes. Certes, il y a la liberté pédagogique, pardon, mais on est quand même libre dans un cadre. Donc ça nous freine quand même beaucoup. Voilà. Donc si vraiment il fallait changer des choses, en premier lieu la reconnaissance, parce que vraiment c'est un métier formidable. Et moi la première, mes proches, moi je suis la seule enseignante dans ma famille et le regard de mes proches a vraiment changé depuis qu'ils sont dans le système aussi. Donc ça c'est vraiment la reconnaissance et l'administratif à changer en premier lieu.
Et parce que la lourdeur administrative, vous sentez qu'elle s'est accentuée avec les années?
Ah oui. Et d'autant plus sur les fonctions de directeur. C'est incroyable. Alors pourtant, je ne suis pas enseignante depuis longtemps, hein, mais il y a une lourdeur administrative. On nous demande énormément de rendre des comptes, de remplir des sondages, de remplir des documents, de remplir des protocoles. Voilà. Et ce temps dédié à ça, on le perd au détriment des élèves, en fait.
Oui.
Donc, c'est compliqué à gérer.
Je comprends. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui sont notamment hésitantes pour se lancer dans les fonctions de direction puis de formation?
Pour la direction, je dirais que s'ils ont l'opportunité et surtout si les collègues se sentent prêts, parce qu'il faut vraiment se sentir prêt à être directeur. Alors moi, je parle de mon expérience de directrice et encore une fois, voilà, je suis pas entièrement déchargée pour ces missions-là. J'ai toujours eu des collègues qui m'ont soutenue, donc je suis un peu comment dire dans le monde des bisounours des directeurs, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, si vraiment c'est quelque chose, ils se sentent de le faire, de foncer malgré le jeune âge, parce que moi on m'a souvent j'ai des anecdotes aussi où quand je suis au partail, on demande à la directrice. Je dis oui, c'est moi, on me regarde avec des yeux, mais c'est pas possible. Vous êtes très jeune. Donc, non, voilà, ne pas se cantonner ni à l'âge, ni au manque de légitimité. Si vraiment c'est ce qu'ils veulent faire, foncez. Et pareil pour la formation, hein. C'est pareil. Moi, je suis très jeune et c'est ce qui a failli me faire rebrousser chemin. Je me disais que j'étais pas légitime. Alors bon, je suis peut-être pas encore légitime, je sais pas, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous anime, si vous avez vraiment envie de faire ça, au-delà des fonctions d'enseignante, je ne peux que dire foncez. Même si la route est difficile pour devenir formatrice, ça vaut le coup.
Super. Et ben en tout cas, on vous souhaite énormément de succès pour cette future certification. Je suis sûre en plus que votre mémoire doit être passionnant. Donc merci mille fois pour toutes ces informations. C'était très riche.
Mais merci. Merci à vous. C'est toujours très agréable de discuter entre professionnels de l'éducation.
Et je suis ravie d'avoir pu présenter dans ce nouvel épisode une personnalité comme ça, avec en plus une triple casquette, c'est hyper riche. Donc merci mille fois.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.